Alors, bienvenue à cette séance intitulée La revue et sa scène, et entre parenthèses, régionale, nationale, internationale. Alors, nous allons aborder des questions qui vont du lieu à partir duquel on publie, de l'action que l'on vise en publiant, et également, je pense, des questions de lectorat. C'est, me semble-t-il, là, les grandes orientations des trois interventions que nous entendrons. Alors, nous allons faire comme tout à l'heure. Donc, je présenterai à tour de rôle chacune des personnes qui doivent intervenir. Donc, je vais donner la parole à tour de rôle aux trois personnes que nous allons entendre en les présentant brièvement. Et nous regrouperons ensuite vos questions de sorte qu'il puisse y avoir une discussion générale. Alors, je vous présente tout d'abord Mme Sylvette Babin, qui détient une maîtrise en open media de l'Université Concordia. C'est une artiste interdisciplinaire, c'est une performeur. Elle a participé à de nombreuses manifestations artistiques au Québec et à l'étranger. Plus récemment, à Toronto, si on peut considérer ça comme l'étranger, en France, également au Chili, en Irlande, en Pologne. Elle œuvre aussi à titre d'auteur, de rédactrice et de commissaire lors d'expositions et d'événements. Elle enseigne la performance et l'installation au programme d'art et théâtre urbain du Collège de Shawinigan. Alors, je vous laisse la parole avec votre communication qui s'intitule « Se faire voir ailleurs, les revues québécoises et la scène internationale ».
Bonjour. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout présenté la revue, fait que je vais vous le dire brièvement. Bon, il y en a plusieurs qui nous connaissent déjà, mais c'est une revue, principalement d'art visuel, mais qui s'intéresse aussi au cinéma d'auteur, au théâtre expérimental, à la musique actuelle, au cinéma, à la danse actuelle. Et la revue existe depuis 25 ans. Je la côtoie depuis 1996 et la dirige depuis 2002. Et puis, c'est vraiment cet exemple-là d'une revue qui se fait le lien entre les praticiens et les théoriciens, qui ouvrent leur page autant à des chercheurs, des artistes, des étudiants, aussi à des activistes, des psychanalystes, des théoriciens, des économistes, des philosophes. Il y a vraiment une place à plusieurs pensées. Et puis, on n'est surtout pas eurocentriste. On s'intéresse à toutes les scènes, que ce soit le Québec, le Canada, l'Europe, mais on a aussi des paroles de l'Amérique du Sud, de Cuba, de la Pologne, de l'Asie, d'un peu partout. Donc, ça, c'est en gros la revue. Je l'ai dit, je crois qu'il fêtera ses 25 ans l'an prochain, qui est tiré à 2500 exemplaires et qui est bilingue. Je me permettrai d'abord, en ouverture, une petite mise au point à propos d'une mention de Jérôme Delgado dans Le Devoir de la fin de semaine et qui disait « Depuis la disparition de Parachute, principale voix à l'étranger de l'édition québécoise, S, etc. et Vie des arts, tentent d'occuper cette première marche laissée vacante. Il ne faut pas s'étonner si les trois sont devenus bilingues la même année. » Fin de la citation. D'abord, M. Delgado, les revues mentionnées ici n'ont pas commencé à vivre avec la fin de Parachute. Et pour ceux qui l'ignoraient, je précise aussi que ce bilinguisme n'est pas lié à la disparition d'une revue, mais bien à l'arrivée d'un nouveau fonds du Conseil des arts et des lettres du Québec, spécialement octroyé pour les frais de traduction qui, dans le cas de S, nous a permis de traduire non seulement des textes anglais vers le français, ce que nous avons toujours fait, mais aussi des textes d'auteurs québécois et francophones vers l'anglais. J'ajouterai aussi, sans connaître spécifiquement les actions de mes collègues des autres revues en termes de présence internationale, que pour sa part, S travaille sur son internationalisation depuis au moins 6 ans. C'est un travail de longue haleine qu'on ne saurait attribuer à la simple disparition d'une revue. Je terminerai cette parenthèse en ajoutant qu'il n'y a pas seulement une place pour les revues québécoises sur la scène internationale, tout comme il n'y en a pas seulement une sur la scène locale. C'est la multiplication des revues culturelles sur toutes les scènes qui permettra que la culture ait enfin la place qu'elle mérite. Aussi, il serait peut-être temps de regarder les revues pour ce qu'elles sont et pour le travail qu'elles ont accompli à long terme, et non pour en les comparant toujours aux disparus. Cela dit, j'en profite tout de même pour saluer Jérôme Delgado, qui est l'un des rares journalistes à avoir régulièrement couvert les différentes évolutions des revues au fil des ans. J'ai intitulé mon allocution « Se faire voir ailleurs, les revues culturelles et la scène québécoise », spécifiquement pour mettre l'emphase sur l'importance, d'une part, de faire connaître la culture québécoise sur la scène internationale, « Se faire voir », et d'autre part, sur la nécessité de s'ouvrir à d'autres cultures pour enrichir le discours sur l'art, voir ailleurs. Conjointement à leur mandat de chercheurs et d'analystes, les revues d'art sont aussi des tribunes importantes pour les artistes et les auteurs. Véritables ambassadeurs culturels, elles ont le pouvoir et le devoir de faire connaître les pratiques de ces artistes, et ce, non seulement sur la scène locale, mais aussi, voire surtout, sur la scène internationale. Si les revues sont, telles qu'on l'espère, des vecteurs permettant une meilleure circulation des idées et des œuvres, quels moyens se donne-t-on pour répondre à ces objectifs? Le devenir international d'une revue d'art passe par différentes préoccupations et contraintes liées à son contenu artistique, à la langue de publication ainsi qu'au réseau de distribution. Mais avant tout, la première étape de son internationalisation relève de son ouverture au contenu étranger. Malheureusement, très peu de revues à contenu uniquement québécois réussissent à percer sur le marché international. La logique est simple. Si on veut que l'autre s'intéresse à nous, il faut d'abord s'intéresser nous-mêmes à l'autre. Cela signifie évidemment de couvrir les artistes et les événements de la scène étrangère et de publier des auteurs d'ailleurs. C'est du moins cette attitude qui a permis à S d'amorcer doucement son internationalisation, d'abord en publiant des articles d'auteurs québécois traitant des événements internationaux ou encore en publiant des auteurs étrangers ayant une réputation internationale. L'étape suivante consiste à s'implanter peu à peu dans des librairies spécialisées, la librairie du Québec à Paris par exemple, puis à trouver des distributeurs. Évidemment, l'internationalisation d'une revue soulève plusieurs enjeux artistiques, idéologiques et économiques. Par enjeux artistiques et idéologiques, j'entends la nécessaire contribution qu'ont les revues à la visibilité et à la reconnaissance des artistes et des auteurs québécois sur la scène internationale. J'entends leur mandat d'être des plaques tournantes de la culture. Mais j'entends aussi le risque encouru d'une perte d'identité locale au profit d'un contenu international. À cela s'ajoute évidemment le bilinguisme essentiel si on veut sortir de la francophonie France-Québec. Par enjeu économique, je pense évidemment à l'élargissement possible du lectorat des revues versus au fait que pour un petit éditeur, la distribution internationale coûte toujours plus cher qu'elle ne rapporte. C'est à ces principaux enjeux que je m'intéresse aujourd'hui. Si on s'arrête sur les objectifs premiers d'une revue d'art qui, selon moi, sont de diffuser les pratiques artistiques et les réflexions qui y sont inhérentes, et cela le plus massivement possible, on conviendra que c'est en élargissant le territoire géographique que l'on atteindra le mieux cet objectif. Les artistes québécois ont encore une grande difficulté à se faire une place sur la scène internationale, et cela est largement dû à un manque de documentation, de catalogues, de monographies et d'articles traitant de leur travail qui pourrait les servir à mieux se diffuser. À cet effet, les revues ont un rôle important à jouer, un rôle primordial. Je ne pense pas qu'il faille s'arrêter plus longtemps sur ce fait qui me semble une évidence, mais en contrepartie, il importe aussi de ne pas oublier que si nous aidons les artistes à se faire reconnaître, c'est aussi souvent eux qui nous aident en ce sens. Tant par la qualité des œuvres et des articles que nous publions ou en bénéficiant de leur notoriété qui est parfois déjà acquise. C'est donc un travail complice entre les artistes et les éditeurs qui assurera le succès des revues sur toutes les scènes. Le mandat d'être des plaques tournantes de l'art et de la culture est aussi un enjeu de taille qui peut inciter les revues à viser le marché international. Loin de moi l'intention de sous-entendre qu'une revue à contenu uniquement québécois répond moins à ce mandat. Nous sommes néanmoins conscients qu'avec l'élargissement des moyens de communication, notamment avec l'entrée en scène d'Internet, les attentes se font de plus en plus grandes envers les différents médias. Les revues d'art sont en plein cœur de ces exigences de la part d'un lectorat de plus en plus éduqué et qui est constamment à l'affût de ce qui se passe sur toutes les scènes culturelles. Pour répondre à un mandat de recherche en art actuel et pour éviter de se fermer dans une pensée restreinte, il est essentiel de multiplier les voix qui se font entendre dans un périodique. Or, on sait très bien que les auteurs québécois ne sont pas si nombreux que nous le souhaiterions, du moins dans le domaine de l'analyse artistique, mais aussi que la multiplicité des points de vue passe par la variété culturelle et donc par la présence internationale. Cette affirmation me mène directement à une grande préoccupation à laquelle pourraient faire face les revues québécoises. Comment assurer un contenu international et de grande diversité sans brimer la présence locale? comment répondre aux impératifs de l'avancement de la recherche en art actuel, tout en s'assurant que notre contenu soit aussi le reflet des préoccupations et des pratiques artistiques québécoises. Y a-t-il un risque réel de perdre notre identité culturelle? Ces questions, elles se les posent constamment. Nous avons été longtemps reconnus pour notre engagement local, pour notre présence en région, pour notre intérêt pour la relève et pour les artistes plus marginaux. Et ces intérêts sont encore bien présents. Mais comment arriver à faire une place à l'un sans trop en enlever à l'autre? Nous ne sommes pas les seuls à nous poser ces questions d'identité culturelle. Le contenu québécois et canadien est un enjeu important qui préoccupe beaucoup, on le sait, le gouvernement fédéral par l'entremise de patrimoine canadien via l'aide aux petites maisons d'édition et de périodiques. Je ne désire pas entrer dans ces considérations d'ordre politique et financière, mais il m'importe néanmoins de le mentionner parce que si les revues réfléchissent constamment à leur contenu, Patrimoine canadien le fait aussi beaucoup, à leur place et parfois à leur détriment. On sait que plusieurs revues québécoises couvrant la scène internationale ont été privées d'un important soutien financier de la part de Patrimoine canadien parce qu'ils ne respectaient pas le ratio exigé de 80 % de contenu canadien versus 20 % de contenu étranger. S en fait partie et vient d'être privé de 25 % de son financement total annuel. Je disais tout à l'heure que la scène internationale ne s'intéressera pas à une revue québécoise si celle-ci ne s'intéresse pas aussi à cette scène. Il faut donc que nous augmentions le contenu étranger de façon plus ou moins significative. 20 % pour une revue comme S qui publie des textes de fond accompagnés d'images, ça veut dire un texte provenant de l'étranger. Je le répète, le succès des revues, tant sur la scène locale qu'internationale, passe par la variété de son contenu. On se retrouve donc face à un important dilemme. Bénéficier d'un soutien financier qui nous privera de la possibilité de faire valoir les artistes auprès d'un public international, c'est-à-dire rester canadien au Canada, ou continuer de travailler pour le développement et la diffusion des artistes à l'étranger, mais sans le financement essentiel pour y parvenir. Je n'ai pas encore trouvé de solution à ce dilemme. Je déplore toutefois que ces questions d'identité culturelle posées par Patrimoine canadien, qui sont tout à fait louables, affectent directement les tentatives d'élargir le déploiement des revues et la reconnaissance des artistes et auteurs québécois sur la scène internationale. Notez que ce que je dis là n'est pas purement théorique. C'est l'ouverture au contenu international qui a permis à S non seulement d'obtenir un intérêt de la part d'un lectorat étranger, mais aussi et surtout un regain d'intérêt de la part du lectorat québécois qui nous a amené à doubler notre tirage en quelques années. Nous parlions hier de la communauté des lecteurs. C'est certainement un autre des enjeux qui mèneront une revue vers la scène internationale. Le lectorat pour des revues à contenu aussi spécialisé que les nôtres est aussi très limité au Québec. Pour celles qui sont uniquement publiées en langue française, l'élargissement du lectorat pourrait éventuellement passer par une exportation vers l'Europe francophone. Je pense qu'il y a là un important bassin de lecteurs potentiels. Toutefois, pour ne pas simplement être exporté, mais aussi pour être acheté, vous devez retenir la logique, s'intéresser à l'autre pour qu'il s'intéresse à vous. Et si vous êtes une revue financée par Patrimoine canadien, il vaudrait peut-être mieux oublier le public français pour vous tourner plutôt vers le public canadien, adopter le bilinguisme et sauver ainsi votre 80 % de canadienneté. Vous comprendrez que j'ouvre ici sur la délicate question du bilinguisme. S a longtemps défendu son positionnement francophone unilingue, particulièrement à l'époque où notre lectorat se limitait aux frontières québécoises. Mais pour être conséquent avec les préoccupations mentionnées concernant la volonté d'élargir le taux de visibilité des artistes et des auteurs, il faut sortir du Québec et l'option du bilinguisme devient alors un choix incontournable. Évidemment, financièrement, pour une revue spécialisée, la traduction coûte toujours plus cher qu'elle ne rapporte. Parmi les enjeux de l'internationalisation mentionnés en introduction, j'ai nommé les enjeux économiques. Ils sont liés aux frais de traduction, de distribution et de représentation, bien que l'on puisse rarement se permettre ce dernier. J'ai toutefois décidé de ne pas trop élaborer sur le sujet, histoire de ne pas terminer cette allocution sur une note trop pessimiste. Je suis consciente ici qu'une distribution internationale n'est pas à la portée de bon nombre des périodiques culturels québécois. Mais il y aurait peut-être lieu de penser à trouver des solutions de groupe qui pourraient vous permettre de côtoyer des nouveaux marchés, par exemple. Le devenir international, ça se fait lentement, progressivement, mais je crois que c'est un enjeu important pour la culture québécoise. Sincèrement, J'espère sincèrement que nos alliés des différents conseils des arts nous aideront à exploiter cette avenue. Merci.
Merci beaucoup, Madame Babin. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Serge Gauthier, qui est historien, ethnologue, écrivain. Il est détenteur d'un doctorat en ethnologie historique de l'Université Laval. Il est président de la Société d'histoire de Charlevoix et chercheur au Centre de recherche sur l'histoire et le patrimoine de Charlevoix. Il est l'auteur de plus d'une quinzaine de livres, alors j'en mentionnerai quelques-uns. L'histoire de Charlevoix, paru en 2000. Charlevoix ou la création d'une région folklorique, paru en 2006. Un Québec folklorique, paru en 2008. Et il est également l'auteur de biographies que vous connaissez peut-être sur Marius Barbeau, Laure Gaudreau et Françoise Labbé. Il est également, et c'est à ce titre qu'il est avec nous, membre du comité de rédaction de la revue d'histoire de Charlevoix depuis 1985. Et il va nous entretenir du sujet suivant, la place des revues régionales dans le cadre d'un regroupement national. Monsieur Gauthier.
Bonjour. Alors, peut-être une petite anecdote en commençant. Ce matin, on a fait 5 heures de route. Christian Harvey, qui est le directeur de la revue d'histoire de Charlevoix, et moi, hier, dans la neige, au départ. Et nous sommes arrivés le soir dans un petit hôtel. Évidemment, le matin, on a déjeuné. Et je me suis assis, et exactement devant moi, j'avais une peinture, qui n'était pas très belle, d'ailleurs, qui représentait une scène de Charlevoix, de Port-au-Percy. Alors, voyez que ça nous suit quand même. Et comme quoi le national peut être parfois régional. Si vous voulez bien, posons le problème très directement. Une revue régionale ou une revue située en région est-elle enfermée irrémédiablement dans les enjeux spécifiques du lieu de son origine ou peut-elle tendre et même devenir d'intérêt national? Si nous sommes ici aujourd'hui à titre de représentants de la revue d'histoire de Charlevoix, c'est que nous pensons qu'une revue de région ou régionale est aussi, à sa façon, une revue nationale. Un petit historique de la revue d'histoire de Charlevoix, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaît ici. Alors donc, ça c'est le dernier numéro. Elle a été créée quand même en 85, la revue d'histoire de Charlevoix, et son objectif au départ portait essentiellement sur la mise en valeur du patrimoine et de l'histoire de Charlevoix. Elle s'est interrogée au fond au fil de 65 numéros, 60 réguliers, 5 hors-série, sur l'identité d'une région au préalable fort divisée sur elle-même, tension entre l'Est et l'Ouest du territoire notamment, et cela a porté des fruits qui ont permis de composer depuis 25 ans ce Charlevoix désormais mieux unifié comme un lieu culturel significatif et un peu unique au Québec, nous le pensons. C'est une réussite dont nous sommes fiers et qui s'est bel et bien réalisée au niveau régional. Mais au fil de ces 25 ans d'histoire de la revue d'histoire de Charlevoix, est-elle demeurée liée aux seuls enjeux régionaux? Nous disons non. La liste des sujets touchés depuis 1985 est éloquente en cette matière. L'environnement, nous sommes réserve mondiale de la biosphère. L'écologie, les paysages naturels, qui a eu des débats très importants dans notre région là-dessus. Entre autres, la Côte des Éboulements. Personnage majeur de la culture québécoise. Alors, Gabriel Roy, quand on a fait notre article sur Gabriel Roy en 86, personne ne savait qu'elle avait écrit une bonne partie de son œuvre dans Charlevoix. Alors donc, on a eu un impact très important. Félix-Antoine Savard, Pierre Perrault. Création du syndicalisme au Québec, Laure Gaudreau. L'histoire de l'art, évidemment, qui est très importante pour nous. Les peintres nationaux, comme René Richard, qui a eu son numéro, Clarence Gagnon, Claude Le Sauteur. Récemment, la Fondation Norditude. Et je remarque au passage que c'est un sujet, le Nord au Québec, qui actuellement est présent sur le plan politique. Alors, on se dit, mon Dieu, nous avons touché la question du Nord dans Charlevoix et au Québec, et on était dans un sujet national. Le débat récent autour des restes d'Alexis le Trotteur, qui est d'ailleurs le sujet de notre numéro, qui peut être amusant et un peu dramatique en même temps, puisque l'homme en question est exposé depuis 30 ans avec son squelette. La chose, peut-être à cause de la chanson de Mes aïeux, est devenue nationale. C'est que c'est devenu un débat. Est-ce qu'on le remet en terre? Est-ce qu'on continue de l'exposer? Le Devoir en a fait un article très important. La presse, LCN, Radio-Canada, on a été débordés de toutes sortes de journalistes. Et c'est devenu donc une question qui a été un peu partout. Donc, notre revue d'histoire de Charlevoix est aussi d'intérêt national et elle est située en région et elle est donc plus qu'une simple revue régionale. Mais voilà, depuis son origine, je dirais que notre revue se bute à cette imagerie et à un contexte historique qui ne favorise pas la reconnaissance nationale du travail réalisé dans Charlevoix. Qu'est-ce donc qu'une revue régionale au Québec? Pour faire un résumé très rapide, disons que le modèle habituel d'une revue culturelle en région est surtout celle d'une revue de patrimoine et d'histoire. Cette revue va parfois de simples feuilles brochées à des publications de présentations plus onéreuses et plus artistiques comme la nôtre. En général, ces revues sont le fait de bénévoles qui sont, selon les périodes et disponibilités, consacre ou non du temps à ces revues. Dans un tel contexte, l'existence d'une revue régionale est variable et incertaine. Celle de régions administratives et universitaires, plus populeuses aussi, peuvent parfois tirer plus facilement leur épingle du jeu. Je pense à Gaspésie, qui a le soutien, entre autres, du musée régional, Saguenay-Yantia, qui a le soutien de l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans une moindre mesure, la revue d'histoire de la Côte-Nord, qui, elle, représente une région réellement administrative. Nous, notre revue d'histoire de Charlevoix, elle a survécu face à l'absence d'une université, ça va de soi, d'un cégep qui n'est pas digne de ce nom, puisque c'est le cégep de Jonquière en Charlevoix, et aussi en étant le fait d'une région administrative de Québec. Et disons qu'on aime bien la ville de Québec, mais ça nous avantage beaucoup parce que Charlevoix, donc, quand on arrive pour demander à Québec, on ne sait même pas qu'on est dans la région de Québec. Et vous savez que Québec, bon, cette année particulièrement, ils ont tous les budgets hein, pour le 400e. Alors donc, si on était sur la Côte-Nord, je pense qu'on aurait un peu plus d'argent. Voilà, je ne dis pas que c'est pas bien que Québec ait de l'argent, mais on aimerait en avoir un peu aussi. Donc, c'est donc comme un tour de force qui a fait que cette revue dure depuis 25 ans. Et hier, bon, j'entendais, ça m'a beaucoup surpris, une revue qui disait, nous, on a des membres surtout institutionnels, et on a très peu, enfin, on cherche des membres individuels. Et nous, c'est tout le contraire. Hein. Parce qu'on est régional, on n'a pas de membres institutionnels. Et les universités, on nous dise, ça ne concerne pas les universités qui, elles, sont très nationales. Hein? Et il y en a une seule ou deux qui sont abonnées dans tout le Québec. Et donc, essentiellement, notre budget, on pourrait en parler longtemps, mais j'ai résumé à peu de choses, c'est les abonnements, donc nos membres qui sont fidèles, et la publicité, où on réussit à développer quand même une publicité locale très intéressante, et les ventes en kiosque qui sont très, très bonnes. On est une région touristique et souvent des numéros qui vont faire des tirages étonnants pour Charlevoix, autour de 2000 quand même. On a une population de 30 000 et on approche de 2000 tirages. Alors donc, c'est quand même assez étonnant. Et tout ça sans institution et tout ça sans subvention, évidemment, nationale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se positionner dans les conseils des arts et lettres et tout ça parce qu'évidemment, on est régional. Et on a essayé là-dessus, évidemment, de trouver un lieu au niveau national où on pourrait espérer ou travailler un jour à cette reconnaissance-là, qui ne concerne pas que notre revue, qui concerne toutes les revues régionales, et surtout, disons dire, le droit aux subventions qui sont liées en lien avec un regroupement national. Vers qui nous pouvions nous tourner? Bon, évidemment, il y avait la Fédération des sociétés d'histoire du Québec, notre société d'histoire qui publie la revue et donc membre de ça. Et d'ailleurs, presque la totalité des éditeurs de revues en région sont membres de la Fédération. Mais cette Fédération, donc, a comme objectif d'être un organisme de bénévoles. Et elle écarte, donc, le fait, la possibilité d'une reconnaissance professionnelle des artisans de revues régionales et de patrimoine. Elle est subventionnée, donc, comme un regroupement de bénévoles et donc n'a pas la préoccupation de dire est-ce qu'on finance les revues de nos sociétés membres. Elle édite, la Fédération, une revue nationale qui s'appelle Histoire Québec, mais qui est produite au fond par la participation entièrement bénévole de ses sociétés membres et elle obtient pour cela une subvention du ministère de la Culture et des Communications. Donc, elle ne revendique pas que les revues régionales aient une subvention. Je notais d'ailleurs la semaine dernière, j'étais au Salon du livre de Montréal et je vais faire une habitude de venir à Montréal. Là. Et j'ai visité le kiosque de la Fédération et il n'y avait aucune revue des sociétés membres qui était au kiosque. On a eu une expérience un peu décevante aussi à la SODEP, parce que moi, personnellement, j'étais en faveur de ça, mais au niveau de notre participation à la SODEP, mais il y a eu quand même des discussions et, enfin, on n'a pas senti, peut-être qu'on aurait dû questionner un peu plus, disons, l'intérêt de faire que la revendication que les revues régionales puissent être reconnues comme nationales n'était pas, à notre avis, présente. Et évidemment, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de revues régionales dans la SODEP. Et pourtant, il y a un beau marché, là. Il y en a, j'essayais de dénombrer, là, il y en a peut-être à 30 à 40 des revues régionales ou locales au Québec. Ils devraient être là, hein, ils devraient participer. Et il y a Gaspésie, évidemment, qui fait partie de la SODEP. Au fond, que seraient les revues d'intérêt national qui composent la SODEP si elles étaient situées, n'étaient pas situées à Montréal pour la plupart? Pourraient-elles être nationales et parler de littérature, d'histoire de l'art, de culture et être subventionnées et basées en région? Difficilement, sans doute, mais pourquoi pas? Aussi, en rapport avec la SODEP, bon, les réunions se font généralement dans les grands centres, et vous savez, je vous ai dit, 5 heures d'autobus. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui veut le faire. Disons aussi, pour nous qui n'avons pas de subvention, une cotisation de toutes sortes, ça déplaît aux administrateurs et c'est pas facile de faire passer la chose. Alors, nous sommes un peu orphelins et nous n'avons pas de regroupement national actuellement. Nous ne pensons pas en avoir qui puisse nous aider à revendiquer ça, mais nous continuons quand même de le revendiquer et dire que notre périodique culturel publié en région est d'intérêt national. Puisque je suis ethnologue, je termine sur sortir le folklore des revues régionales. Une revue régionale n'est pas nécessairement un document un peu désuet et folklorique. Ces revues portent aussi des aspects essentiels du paysage culturel québécois qui sont d'intérêt national. Nous voulons sincèrement sortir du folklore et c'est pour cela que nous demandons le droit de présenter nos demandes financières dans les divers programmes de subventions gouvernementaux à titre de revues d'intérêt national, mais situées en région. Nous espérons toujours pouvoir compter sur l'appui d'une institution nationale pour cela, même si nos attentes, nous le croyons, ont été vaines à ce jour. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous espérons quand même un peu. Merci.
Merci beaucoup, M. Gauthier. Alors, nous allons poursuivre avec Mme Montreuil. Et je cherche, même si je la connais bien, je cherche quand même quelques informations. Alors, Sophie Montreuil est directrice de la recherche et de l'édition à Bibliothèque et Archives nationales du Québec depuis 2007. Elle est en outre rédactrice en chef de la revue À rayon ouvert, que vous connaissez sans doute, hein, qui est la revue grand public, pourrait-on dire, de BANQ, ainsi que rédactrice en chef de la nouvelle revue scientifique que BANQ fera paraître à compter du printemps 2009. Sophie Montreuil a terminé un doctorat en littérature à l'Université McGill et elle a collaboré à titre de stagiaire postdoctoral à la publication que vous connaissez aussi peut-être, qui s'intitule « L'histoire du livre et de l'imprimé au Canada ». Elle a contribué au tome 2. C'est une spécialiste de Gabriel Roy. Elle a publié plusieurs études de critique génétique sur l'œuvre de Gabriel Roy. Et également, elle a dirigé, elle a effectué des travaux sur Joséphine Marchand d'Endurant, qui a joué un rôle très important dans les médias à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Elle va présenter une communication intitulée « Produire une revue dans un contexte institutionnel » à la BANQ, peut-on concilier le patrimonial, le culturel, le savant et le national?
Merci, Micheline. Merci beaucoup. Je laisse de côté ma formation universitaire de chercheur. Je suis dans une nouvelle institution où, bien que cette formation me serve au quotidien dans l'exercice de mes fonctions, je ne fais plus ce que je faisais auparavant. Je fais vraiment autre chose. Et c'est notamment de cette autre chose dont je viens vous parler aujourd'hui, d'une partie de cette autre chose qui est d'assumer la rédaction en chef d'une et bientôt de deux revues dans un contexte institutionnel. C'est de ça dont je viens vous parler. Ça diffère, en vertu de ce que j'ai entendu depuis hier, beaucoup du contexte de travail qui est le vôtre, notamment parce que, et ça me gêne un peu, je pense avoir des moyens, une facilité de moyens que vous n'avez pas. Mais je vous dis qu'en contrepartie, j'ai aussi des obligations et un contexte de travail que vous n'avez pas non plus. Alors, je pense que qu'en mettant les deux dans la balance, ça fait un portrait, somme toute, équilibré. Je vous amène donc à l'intérieur d'une institution qui est une société d'État, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui est une grosse institution maintenant. On se prétend, c'est inscrit quelque part dans le programme, la plus grande... pas entreprise, mais institution culturelle au Québec. C'est certainement vrai à cause du nombre d'employés. Nous sommes environ à 750 employés dans une institution culturelle. C'est majeur, évidemment. C'est une institution qui, depuis notamment l'ouverture de la Grande Bibliothèque, ça fera 3 ans au printemps, bénéficie d'une bonne, entre guillemets, d'une couverture médiatique. Quand les lamelles tombent, on la trouve moins bonne. Mais quand on fait des bons coups et qu'on a une couverture dans les journaux, régulièrement dans le Devoir, on est bien contente de se retrouver, que nos activités, nos réalisations se retrouvent sur la place publique. Donc, cela dit, c'est pas le paradis non plus. Il y a personne de l'institution ici présente, donc je vais parler peut-être avec une plus grande liberté que ce que j'aurais pu faire autrement, bien que j'assume entièrement mes propos. Vous savez aussi, j'attire votre attention sur ce point-là, que la personne qui est à la tête de notre institution, qui en est la présidente directrice générale, c'est Mme Lise Bissonnette, qui a été donc pendant, je pense que j'ai écrit les dates quelque part, mais pendant une longue période, éditrice et directrice du Devoir. Vous devez lire entre les lignes que tout ce qui se fait en matière de publication dans notre institution, qu'il s'agisse de périodiques, qu'il s'agisse de monographies, d'ouvrages collectifs, elle regarde ses réalisations très attentivement, très étroitement, à cause de sa formation, évidemment, à cause de son intérêt aussi. Donc, c'est une fonction qui est celle que j'occupe, entre autres, qui est vraiment en ligne très, très étroite avec la haute direction de l'institution. Ça soulève beaucoup de défis, je dirais, on va le dire comme ça. Je suis la rédactrice en chef de la revue À rayons ouverts depuis janvier 2006. Ça fera bientôt 3 ans. J'ai peine à croire que ça fasse si longtemps parce que ça a passé très vite, ce qui équivaut environ à 12 numéros. La revue À rayons ouverts, le dernier numéro, vous l'avez entre autres dans le hall d'entrée, vient tout juste donc de sortir. Elle sort 4 numéros par année, des numéros qui d'une fois à l'autre prennent du poids, je dirais. Le dernier a 52 pages, donc c'est une revue qui est très riche en contenu. Quand j'ai hérité, parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé, de cette fonction-là, je n'y étais absolument pas préparée concrètement, c'est-à-dire j'avais jamais exercé cette fonction-là auparavant. Donc c'est une fonction que j'ai découverte au fur et à mesure des numéros, que je découvre encore, et c'est une fonction que j'apprends dans un contexte très précis, donc un contexte institutionnel extrêmement balisé. Donc, vous allez peut-être voir des échos avec votre propre travail, mais peut-être que non plus. C'est un peu ça que je veux mesurer, en quelque sorte, que j'ai voulu mesurer en venant vous parler, aujourd'hui. Cela dit, bien que ça fasse 3 ans, le fait de participer à un événement, à ces journées culturelles, m'a obligée, et ça vraiment, j'en suis très reconnaissante, à réfléchir un peu sur cette fonction-là. Au quotidien, on n'a pas le temps, honnêtement. Hier, on parlait du fait qu'on sort un numéro, puis on est déjà rendu dans le prochain, voire dans le suivant. Ça va toujours très, très vite. C'est un éternel recommencement. Et ce qui fait qu'on a peu le temps de s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on fait. Donc, j'ai eu cette occasion de recommencer, je dirais vraiment, c'est un début de réflexion sur ce que c'est que cette responsabilité au sein d'une société d'État. Voilà ce qui répond, entre autres, à la question « Pourquoi ouvrez-vous au sein de la revue dont vous venez parler? » Ben, parce que j'ai pas le choix, en quelque sorte, on me l'a demandé. Je remplis la tâche, ça me fait plaisir. Voilà. Le cadre, je dirais, de mon intervention, c'est un peu de faire voir les défis, en quelque sorte, les problèmes, les enjeux liés donc au fait de produire un périodique culturel et bientôt un deuxième dans un contexte institutionnel où, effectivement, la haute direction est toujours très, très près de chacune des étapes de réalisation de la revue. Parce que vous la connaissez peut-être pas ou pas assez, j'ai tendance à déborder, hein, il faudra me le dire, Micheline. Je vais faire un rapide portrait statistique, surtout de la revue À rayons ouverts, puisque l'autre, qui s'appelle Revue Bibliothèque et Archives nationales du Québec, celle qui est à paraître au printemps, n'est pas encore sortie. Cela dit, nous y travaillons évidemment activement à quelques mois de la parution du premier numéro. Vous devinez qu'on y est vraiment, on est complètement dans cette revue. Donc, je vais parler surtout du À rayons ouverts. Donc, en réponse à une des questions qui était posée par les organisateurs, pourquoi une revue naît-elle dans le contexte de notre institution, qui à l'époque était la Bibliothèque nationale du Québec, il y avait pas, c'était en 87, donc que la revue a été fondée, à l'occasion du 20e anniversaire donc de l'institution. Le premier vrai numéro est paru en janvier, à l'hiver 88. Je vous lis un extrait du bulletin. Ça s'appelait, le sous-titre était « Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec ». Aujourd'hui, c'est « Chronique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ». Vous allez voir qu'il y a eu un passage aussi entre le bulletin et la chronique. Donc, l'éditorial était signé par le directeur général de la Bibliothèque nationale du Québec de l'époque, donc Georges Cartier, qui pose assez clairement là, les objectifs donc, de la revue. La revue À rayons ouverts sera essentiellement un organe d'information. Il n'y a pas de posture critique chez nous. Il y en a par moment, mais ce n'est pas l'objectif premier. Ses rédacteurs habituels, donc là, on est en 87, fin 87, ses rédacteurs habituels seront des membres du personnel de la bibliothèque. C'est encore et toujours cette réalité qui prévaut. Son comité de rédaction a reçu comme mandat de mieux faire connaître la Bibliothèque nationale du Québec à ses partenaires et ses clientèles, donc mieux faire connaître ses activités, ses ressources documentaires, ses services. L'intention de l'institution étant d'accorder priorité à la diffusion de ces richesses documentaires. Donc ça, c'est Georges Cartier à l'automne 87 qui crée donc ce bulletin qui avait l'air de ceci. Donc il y a 20 ans, ça fait 8 pages. C'est il y a des BD. Ça, j'étais très étonnée. J'avais jamais feuilleté les anciens numéros. Alors il y a des BD, il y a toutes sortes de choses. Et c'est quand même illustré à l'époque, mais c'est bon, relativement modeste. Là, vous le voyez bien. Voilà pour ça. Jusqu'en mars 2002, donc, la revue publie régulièrement ses 4 numéros. C'est un trimestriel, donc ses 4 numéros par année. Ils font tous, d'après ce que j'ai pu voir, 8 pages. C'est toujours un contexte extrêmement donc balisé. Ils comportent quelques illustrations, généralement en noir et blanc. Cela dit, la revue a, je vous montre comme ça rapidement quelques numéros, la facture visuelle sur donc près d'une quinzaine d'années jusqu'en 2002, s'est modifiée légèrement. Bon, l'apparition de la couleur un peu. Ici, on voit mise en page un petit peu différente aussi. Et mars 95 aussi. Donc, il y a eu une préoccupation de modifier, d'ajuster la facture graphique au fil du temps. Il y a eu une interruption ensuite de près d'une année et demie entre le numéro 57 qui est paru en mars 2002 et le numéro 58 qui est paru en décembre 2003. Le numéro 57 donc avait l'air de ceci. Donc c'est le dernier numéro de l'ancienne revue, si je puis dire comme ça. Le numéro 58, c'est ça. Vous voyez tout de suite qu'il y a un changement majeur entre les deux. Il est dû à l'arrivée de Mme Bissonnette, c'est assez clair, dans l'institution. C'est au bas mot le double du nombre de pages. Et depuis ce temps-là, le numéro 58, donc paru décembre 2003, faisait 24 pages. On en est rendu à 52. Là. On dirait qu'il n'y a plus de limite là, dans ce qu'on est capable de dire. Je vous lis, et vous allez voir aussi le changement, un changement important. Je vous lis l'éditorial, le premier éditorial donc de Lise Bissonnette. On ne s'étonne pas qu'elle fasse un éditorial dans la revue institutionnelle, donc paru dans le numéro 58, donc décembre 2003. Donc, le bel instrument de communication qui était la revue de la BNQ À rayons ouverts a conservé son nom judicieux, sa volonté de faire connaître hors les murs les activités de la bibliothèque, mais il s'est aussi imposé une refonte importante après quelques mois de suspension de publication. En fait, c'est un an et demi là, de suspension. À rayons ouverts se présentera désormais comme un véritable magazine de la BNQ. Il y a un changement éditorial, en tout cas. Il y a un ajustement qui est fait à ce moment-là. Messages éditoriaux, dossiers spéciaux, entretiens, rubriques récurrentes en provenance de nos diverses équipes spécialisées, courrier des lecteurs, ça s'est pas concrétisé, j'en ai jamais vu de courrier des lecteurs dans notre revue. La publication rendra compte de la vie de la BNQ et, nous l'espérons, permettra d'éclairer toute l'étendue de son travail. L'institution se voyant comme un soutien intellectuel et technique indispensable à la chaîne du livre, mais peu visible. Madame Bissonnette terminait en disant « Nous voulons engager le dialogue, non seulement avec les milieux de documentation ou de recherche, nos clientèles, je dirais, premières, mais avec l'ensemble des milieux de la culture et d'éducation, ainsi qu'avec tous les lecteurs qui fréquentent donc la BNQ. » Donc, il y a un changement avec l'arrivée de Madame Bissonnette. On passe du bulletin à une formule davantage magazine, donc des dossiers spéciaux, des rubriques récurrentes. Effectivement, on a maintenu ça constamment. Et il y a eu, évidemment, une toute nouvelle facture graphique avec beaucoup plus d'illustrations et surtout un usage abondant de la couleur à l'intérieur de la revue. Le format, donc... tel qu'il était en décembre 2003, tel qu'il est encore aujourd'hui. Donc, c'est le dernier numéro qui vient de sortir. Et emprunte au magazine sa formule, donc d'avoir un contenu qui s'organise sous forme de rubriques, de dossiers, etc. Quelques mots sur le fonctionnement. Donc, les auteurs sont majoritairement des employés de l'institution. On va aller par moments chercher des collaborateurs externes. C'est une chose que je souhaiterais faire davantage. Évidemment, quand on travaille à une revue qui a pour fonction première d'informer, de transporter à l'extérieur de l'institution l'information sur ce que nous sommes et ce que nous faisons, c'est difficile d'aller chercher des gens à l'extérieur pour parler de ce qu'on est. Mais c'est pas impossible non plus. Il y a un comité éditorial qui préside à ces activités et qui est formé de représentants de chacune des directions générales de l'institution. Je ne sais pas si vous avez déjà vu notre organigramme, il est assez costaud. Alors, ce que je laisse entendre ici, c'est qu'il y a des enjeux politiques à l'intérieur, dans le fonctionnement, qui entrent en cause et qu'il faut prendre en considération dans le fonctionnement de la revue. Mon rôle est souvent de m'assurer, d'abord et avant tout, que dans chaque numéro, il y a des articles de chaque direction générale, que tout le monde a voix au chapitre et qu'il y a un équilibre, une représentativité relativement équilibrée des directions générales, chacune ayant au sein de cette grande institution ses propres mandats, ses propres missions qu'elle veut aussi mettre de l'avant. Et ça, je n'avais pas mesuré ça du tout au début de la fonction. Voilà. Diffusion et abonnement. La revue est distribuée gratuitement par l'entremise d'un abonnement pour la version papier. Elle est aussi diffusée sur le portail de l'institution. C'est simplement une version... Non, c'est vrai. Il y a une version PDF et il y a une version HTML très, très modeste, là. Mais on a accès donc à deux versions en format électronique. Le tirage est d'environ 3000 exemplaires. Il y a près de 2050 abonnés pour la version papier. Évidemment, la version Internet est toujours libre d'accès. 90% de nos abonnés sont localisés au Québec, mais par ailleurs, et ça, j'étais très étonnée, l'autre 10% s'en va partout dans le monde, littéralement. La revue se rend, je vous donne quelques exemples, la liste de pays est très, très longue. Allemagne, Belgique, France, Argentine, Brésil, Égypte, Iran, Sénégal, Côte d'Ivoire, j'en passe. Dans certains cas, c'est une personne. Dans d'autres, en France, il y a près d'une cinquantaine de personnes qui reçoivent la revue. Parmi les 2050 abonnés, j'ai essayé de faire une répartition rapide. Près du quart, donc à peu près 500, sont des particuliers. Donc, vous, n'importe qui, enfin, qui demande d'être abonné à la revue, peut faire ce droit de la recevoir chez lui gratuitement. Un autre, près de 500 abonnés sont en fait des bibliothèques. Et là, je pense qu'on en couvre vraiment beaucoup. Il s'agit de bibliothèques publiques, de bibliothèques scolaires, de bibliothèques universitaires aussi. J'ai tendance à croire qu'elles se rendent pratiquement dans toutes les bibliothèques. Pour un autre quart, un pourcentage un petit peu moins élevé, mais près de 20 % des établissements d'enseignement autres que les bibliothèques, si on veut, donc des universités, des cégeps, des établissements secondaires et des centres de recherche. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Je pensais que le chiffre était moindre que ça. Donc, je suis très heureuse de voir qu'elle se rend dans les établissements d'enseignement parce que c'est un des lectorats qui m'attire, moi, personnellement, je dirais. Et diverses autres catégories pour le reste des abonnés, des libraires, des ministères, des musées. C'est vraiment un profil assez éclaté, je dirais, que celui des abonnés de la revue. Je glisse assez rapidement pour parler brièvement...
Conclure
déjà. OK. Donc, je ne parlerai pas de la revue scientifique. C'est dommage, mais peut-être qu'il y aura des questions là-dessus. Mais je reviendrai en parler quand on aura au moins un numéro sous la main, peut-être. Quelques pistes de réflexion sur le contexte institutionnel. Qu'est-ce qui agit sur la production d'une revue en contexte institutionnel? Qu'est-ce qui facilite ou qui entrave son fonctionnement? C'est peut-être ces questions-là qui vont vous intéresser davantage. Je pense qu'au sein d'une revue comme Arrayons ouverts, qui est une revue qui porte les messages de l'institution, au-delà de fournir une information, d'avoir un discours propre,